Eh bien, on est à peu près tous. On va y aller, donc on va marcher un quart d'heure.
C'est une campagne trompeuse. Ensuite, on va être dans l'industrie chimique. Et puis ensuite, on sera dans ce nœud le long de la centrale hydroélectrique. C'est une troisième humeur. Allez, on est parti.
Vous écoutez le podcast
Les Agités du Bocal.
Conseil de développement.
Grenoble Alpes Métropole.
Les Agités du Bocal vous présentent les marches sensibles du Conseil de développement. Épisode 1, le saut du moine. C'est au lieu-dit du saut du moine que l'on vous emmène pour ce premier opus, accompagné par Marc Higgin et Sébastien Deperta, anthropologue et géographe.
Là, il faut marcher comme si on était vraiment en randonnée, hein, à bon pas, parce qu'on va mettre un quart d'heure. Ouais.
Cholaise ou charolaise?
Pour l'instant, on voit campagne, on voit pas campagne trompeuse.
Voilà tout ce qu'on va traverser, nos sensibilités, à comment est-ce qu'on peut être à l'écoute de ce milieu. Ouais. Et on va vous distribuer un petit carnet qui va dans ce sens-là. Donc c'est un petit carnet qu'on appelle un petit carnet d'écoute qui vous invite à prendre des notes sur ce que vous observez, ce que vous entendez, ce que vous écoutez, ce que vous percevez. On l'a appelé carnet d'écoute, mais il faut entendre l'écoute au sens le plus large possible.
Ouais. On vient tous les deux d'un laboratoire récent à l'école d'architecture qui a vraiment, depuis les années 80, travaillé les questions du sensible, surtout l'écoute, le sonore, mais pas que, pour comprendre la ville, les formes urbaines, les formes d'habiter un lieu, les usages, mais par le sensible. Alors ici, avec le carnet, on vous invite en fait à prendre des notes et juste d'entrer dans le jeu. Et le jeu, c'est de prêter attention. Ce qu'on va faire ici, alors c'est le premier pas de côté, c'est de marcher en silence. Ce territoire nous intéresse tellement. Moi, je le vois, ce territoire, je le comprends dans le sens d'un arrière-pays. Et par arrière-pays, j'entends, c'est un terme utilisé par un géographe américain. En anglais, c'est hinterland. Et il a utilisé pour parler de l'essor de Chicago au fin du 19e, début 20e. Et comment la ville de Chicago, ce métropolis, a grandi avec tout un arrière-pays, en fait. On peut pas comprendre Chicago sans comprendre le Grand Ouest que ça a mis en réseau. Et c'est comment la ville se greffe sur une première nature. Il fait la différence, une première nature qu'on voit bien ici avec les collines, la forêt, les vallées, les rivières. Et comment la ville se greffe dessus et le transforme en une deuxième nature. Alors une nature complètement artificialisé, mis en technologie, mis en infrastructure. Et ici, on est presque au point névralgique pour comprendre pas seulement Grenoble maintenant, mais surtout tout le développement de cette ville.
Je ne sais pas si certaines connaissent donc cette plateforme chimique. Est-ce que vous avez une idée de quand est-ce qu'elle est, de quand est-ce qu'elle date en fait, quand est-ce qu'elle est née et pour quels usages? Ouais, exactement, ouais.
Alors, en 1915, quand les Allemands ont commencé, qu'il y avait une industrie chimique beaucoup plus fortement développée, quand ils ont commencé à utiliser le chlore et d'autres gaz sur le front, le gouvernement français a voulu en avoir aussi. Et ils ont lancé une sorte de marché ouvert pour des entrepreneurs de mettre en place la production de chlore avec une rémunération très haute. Et il a eu deux dans la région, ici à Jarry et l'autre à Pont-de-Clé. Alors ici est née toute la chimie chlore à base de chlore qui reste jusqu'à ce jour. Ici, c'était plutôt des forces motrices. Alors, ouais, on peut remonter ici très loin. On peut remonter à l'inondation du 13e, en fait. Et c'est une inondation de la Remanche qui a fait... c'est le grand lac qui s'est fait dans le Bordoisan, qui a lâché. Et ça a dévasté toute la vallée, Visil, Grenoble. Mais ce que ça a fait...
Attends, je t'arrête une seconde, ouais. Marc. Si vous ne la voyez pas tous, moi j'ai habité longtemps à Grenoble avant de comprendre. Quand on arrive à Bourdoisan, effectivement, on a un replat très vaste, ouais, qui est en fait des eaux, des alluvions qui étaient retenues. Il y avait un lac, d'où ce dépôt alluvial. Lac qui était tenu par un verrou artificiel, c'est-à-dire des, ouais, remblais, qui ont lâché au XIIIe siècle, qui ont envahi toute la vallée jusqu'à Grenoble, avec une vague importante, hein, 7 à 8 mètres de haut. Donc aujourd'hui, on parlerait d'une catastrophe majeure. Ce qui explique encore, à mon avis, qu'aujourd'hui, curieusement, dans cette agglomération, il y a très peu de dialogue avec la rivière. On n'est pas du tout une ville où les habitants dialoguent avec l'eau. Pour moi, le dernier exemple spectaculaire, c'est la presqu'île scientifique qui est toute neuve, où aucun bâtiment ne regarde la rivière et ne profite de la rivière. Or, aujourd'hui, l'essentiel des villes du monde entier, de New York à Amsterdam, développe au plus possible les rapports à l'eau, parce que ça rafraîchit, parce que ça humanise, etc.
En fait, ici, on voit un des effets géologiques, mais pas que. C'est ça, toute l'histoire ici. C'est qu'on est avec des forces géologiques, hydrologiques, mais toute l'histoire de Grenoble se fabrique avec ces forces.
Il y a une quarantaine d'années, peut-être, ou un peu plus, les odeurs étaient beaucoup plus présentes. Et je pense que l'enjeu aussi de ce genre de traversée de ce territoire ici, mais ce qu'on va faire toute la matinée, c'est aussi de tenter de se rendre ou de se re-rendre sensible à tout un tas de présences qu'on peut très largement ignorer. C'est-à-dire que ces usines, elles sont complètement dans la ville. On est traversé par des réseaux dont on peut ne pas se rendre compte, électriques, chimiques. Bon, les voies routières, elles sont les voies de communication sont un peu plus perceptibles. Mais voilà, il y a tout ce travail autour de la perception et des usines qui ont tout fait pour, finalement, je crois que c'est un peu une condition de survie aussi pour elles, c'est-à-dire d'être le moins présente possible en termes, oui, olfactifs, auditifs, visuels, voilà.
Une autre chose des réseaux qu'on n'a pas parlé, il a de l'eau salée qui venait avant du sud, du Méditerranée, depuis, je ne m'appelle quand, ils ont fait un pipeline, ils le puisent, ils l'extraient en fait en Vercors, ou à l'autre côté du Vercors. Il a un pipeline qui arrive ici. Ouais. Il a aussi un pipeline d'acétaline qui vient du sud, qui remonte jusqu'à Lorraine. Il y a des pipelines de gaz, on en a vu. Je ne sais pas si vous avez vu dans le champ. Ouais. En bas, on va voir tous les pipelines qui relient les deux plateformes chimiques, parce qu'il a des entrées, des sorties des processus chimiques d'un plateforme qui vient et devient des entrées. Alors là, on voit que l'écologie est en fait beaucoup plus large que juste au sein d'une usine. Elle se fait entre les deux plateformes.
Plein de gens rêveraient que ces usines partent. Et on est tous en passant en voiture, c'est des choses qu'on ne veut pas voir. D'ailleurs, eux communiquent très très peu. C'est un point complètement opacifié de l'agglomération. C'est une très grande puissance économique, on le sous-estime souvent. C'est voilà. Hein, vas-y, Francine.
Première contributrice pour les taxes voilà. Des entreprises pour la métropole.
C'est une très grande puissance économique, donc financière.
Il
alors que
pour Pontclé, pour Jarry, pour Champs-sur-Drac.
Et des emplois.
Donc des emplois. Et évidemment, c'est non localisable, délocalisable, puisque plus personne ne veut une usine chimique de cette taille-là dans sa commune. On repart à marche forcée, mais on pourra continuer à parler jusqu'à nos voitures.
Faites demi-tour et vous essayez de me suivre.
Ça a un petit côté noir. Ça peut être un bon acte.
Et que c'était antérieur au... Enfin, à tout ce qu'on a mis en électricité, à l'électricité.
Oui,
enfin, c'était
pas dans la dynamique
voilà.
de
Louis pour
Blanc,
moi, c'était années 70.
De Louis Blanc, ouais. C'est très et troublant. Et le gag de l'inondation au XIIIe siècle, c'est troublant aussi. Quoi. Oui. Tu vois la profondeur de ce territoire, quoi, son histoire, sa longue histoire, qui a mis les alluvions, qui a mis l'agriculture. Qui a... c'est vertigineux. Alors, on passe par coup là, j'ai même pas regardé. Merde, on recoupe. On est arrivé par là.
Ouais, on est arrivé par là.
Ah oui, on arrive par là.
Vous avez vu le
la zone, c'est ça, c'est
la zone de Sodomane
aussi.
Non, bah oui, je l'ai pas lu, mais du coup, c'est qu'il allait la raconter.
Peut-être qu'il va la raconter. Et nos entrepreneurs te diront, mais non, le Sodomane, c'est ça, voilà.
La marque, on va essayer de refaire, de remettre les oreilles à l'écoute, les yeux à l'écoute.
C'est bucolique ici.
Ouais.
Ces tuyaux, cette jolie petite rivière. Oui.
Il y a la question d'infrastructure critique là. On voit, on est plein à côté de la pente, à côté de la route, à côté de la rivière.
C'est vrai que c'est un territoire, c'est un peu ce que j'ai marqué dans le texte en introduction, c'est-à-dire qu'on bute constamment sur des barbelés, des territoires qui sont fermés ou interdits d'accès. Et bon, ça revient à ce que disait Marc, mais il y a toujours ce rappel constant de l'interdiction, du danger, du risque, et qui fait qu'on a l'impression d'avoir un territoire un peu morcelé, quoi.
Les gens avaient remarqué en fait que les eaux de la Romanche étaient fertilisantes, et où il avait alluvion de la Romanche, il avait les choses poussées. Juste avant la Révolution, il y a quelques, je me rappelle, je crois qu'ils étaient deux au commencement, deux notables de Grenoble. On est en 1789, je crois, ouais. Juste avant. Alors ils ont vu ces questions d'alluvion et de rivière, ils se sont dit, ah, et toute la plaine où le Drac avait son lit, c'était des champs de galets. Il n'y avait rien qui poussait en fait. C'était des terres que ça appartenait à des gens, mais ça n'avait aucune valeur. Alors ils se sont dit, tout ce qu'on doit faire, c'est d'apporter cette eau, la laisser faire son travail, laisser apporter ses sédiments, et en fait ces terres vont devenir riches, ils vont devenir agriculturels. Alors ils ont commencé, c'était ici en fait, ça prenait l'eau de la Romanche à peu près juste derrière le Sodomane. Ça commençait là, et ça apportait dans les plaines d'Échirolle.
Une intervention qui est intéressante, parce qu'on ne regarde jamais assez, malgré tous nos efforts.
En fait, là, il y a une grande ligne de tension. Le pylône est derrière les arbres, c'est le grand pylône qui est derrière, qui court là-bas, et qui après qui va jusqu'au poste de Champ-sur-Drac, juste là-bas derrière. En fait, cette ligne-là, elle est importante pour la France, parce que c'est la ligne qui arrive du barrage de Grand-Maison, à 50 km d'ici, qui est le barrage le plus puissant de France, en fait, qui fait aussi l'appoint, donc qui permet aussi d'éviter de faire de l'appoint avec du gaz ou du thermique, en fait. Et il a la capacité d'alimenter des villes comme Grenoble, Lyon et Chambéry en même temps, en fait. Donc c'est le plus puissant de France, et c'est la première production française d'hydroélectricité, c'est le barrage de Grand-Maison, et son électricité arrive ici pour desservir les industriels, les villes. Voilà. Bon exemple d'une nuisance visuelle qui a son importance, en fait. Mmh. Voilà. Donc on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir de l'énergie renouvelable sans avoir des lignes électriques. Voilà.
Bah, je crois que tu résumes un peu la matinée, là. On prend conscience de l'invraisemblable tricot de contraintes, de choses qui sont géniales, puisqu'il y a aussi des inventions géniales. Même tes investisseurs du 18e siècle, il y a quelque chose de génial, quoi, là-dedans. Mais quand on voit le résultat, l'entrelac de canaux, de lignes à haute tension, de tuyaux de gaz, de machins, etc., c'est assez impressionnant. On va marcher jusqu'au passage Clouté. On va attendre qu'on ait le droit de traverser, et on va traverser. Et puis on va visiter, c'est la fin de cette première partie de la balade, on va visiter, on va regarder le verrou géologique un peu de trois quarts.
Il y a toute une empreinte en aval qui est très important, en fait, qui est très intéressant, comment les infrastructures formatent tout un milieu associé. Et c'est quelque chose qu'on parlait juste avant, c'est la question des glaciers, des changements climatiques, des changements de précipitations, les niveaux du nappe phréatique et surtout les pressions, et comment ça remet en cause tous ces voisinages très très proches. Alors en termes atmosphériques et hydrauliques, on a un voisinage d'une plateforme chimique importante avec les captages d'eau de tout Grenoble, qui est à côté.
presque le mot-clé de la matinée, c'est milieu associé. Là, on peut mettre un S, hein. Les milieux associés, ici, c'est invraisemblable, quoi. Comme tout est collaborant, il n'y a rien d'autre, aucune autonomie n'est possible. Tout est collaborant. C'est la première remarque. Et puis, en voyant ces difficultés, ce que tu nommes notamment quant au passage des eaux qui servent à l'alimentation et les eaux éventuellement polluées des sous-sols des usines, on voit bien comment nos sociétés sont tellement tentées d'exporter ces usines loin de nos regards pour vivre dans un monde qui serait propre, alors qu'on ne fait que départer au lointain nos polluants, quoi, sous une forme ou sous une autre. Quoi.
Comment un dernier mot, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est la réserve naturelle. Alors je ne sais plus où la frontière passe, mais on est quasiment dedans. Hein. Ouais, et cette réserve naturelle qui est hyper intéressante parce que c'est vraiment quelque chose d'origine hybride, c'est-à-dire que c'est pas juste une réserve naturelle pour protéger des milieux ou quoi que ce soit, mais qui est vraiment aussi le symbole de cet entrelacement dont tu parlais, de tout un tas d'acteurs, d'enjeux de production, de sécurisation, etc. Et qui est né, je me souviens plus l'année, mais début 2000, c'est ça, 2005 ouais,
Alors c'est un réserve qui s'est fait presque en creux, parce que de toute façon, il n'y avait personne qui avait le droit d'y aller. Alors c'était déjà une sorte de réserve, on pourrait dire, et ça c'est...
Quelle réserve, des îles du Drac
ou quoi ?
Quelle réserve ?
Oui, des îles du Drac, ouais. Qui est une réserve...
Je reviens au conseil développement, parce qu'on est là pour le conseil développement. Si juste le conseil développement disait qu'est-ce qu'on va faire de ça, arrive à faire le récit de ça, c'est-à-dire de mettre dans des termes où on puisse entendre cet entrelac, pas juste pour que les gens s'opposent les uns aux autres, mais que parce qu'on voit à la fois que c'est une immense richesse, quoi. Et je me dis, juste le récit, petit à petit, très compliqué, hein, de ce lieu qui est invisible. Moi, je vais très souvent au lac de Monténard, je passe en vélo, j'ai jamais vu ça. Et je passe souvent en vélo ici. Donc, j'ai rien compris à ce site, alors que j'y passe tout le temps.
Moi, j'avais une remarque parce qu'en fait, là, ici, on a vu qu'il y avait des nouvelles sociétés qui étaient en train de s'installer. Et je pense qu'aussi, un des points qu'il faut qu'on imagine et qu'on surveille, c'est comment ces gens-là vont venir travailler. Parce qu'en fait, dans notre problématique de Visil, donc on pose la question de savoir comment les Visilois viennent ici, mais se pose aussi la question de savoir comment les gens vont venir travailler ici, comment ils vont habiter. Comment à moindre impact ça, et c'est vrai que ça aussi les questions elles se posent parce qu'on nous dit bon, on a vu il y a un bus qui arrive, donc ça sera la solution pour ces gens là une autre solution ça va être une piste cyclable qui devrait, et là moi j'ai du mal à la voir installée aujourd'hui parce que là logiquement on ne sait pas où elle va être, hein, mais
suspendue.
Et au-delà, voilà, c'est, il y aura, pour l'instant il n'y a pas d'autres choses qui sont imaginées pour ces gens là
pas mentionné, parce que moi j'étais parti du principe que vous étiez soit au courant, soit peut-être même c'est l'objet du travail, je sais pas, on l'a pas mentionné, mais c'est le projet parc industriel sud de la métro. Voilà, et donc c'est tout ce territoire qu'on vient de traverser. Il y a aussi derrière une volonté de la métro d'affirmer le caractère industriel du site. Donc c'est quand même pareil. Alors.
Et donc, malgré des efforts de transversalité, c'est compliqué de tout entrelacer. C'est peut-être là-dessus qu'on pourrait avancer, ou ça pourrait être une préoccupation de dire c'est quoi une solution entrelacée, quoi. Hein ?
Je vous propose, on va retourner vers les voitures.
Orchestrée par Philippe, membre du C2D, cette marche sensible, ultra sensible, à travers les méandres du Sceau du Moine, nous a permis notamment de saisir d'une manière très concrète la complexité et le caractère imbriqué de nombreuses problématiques métropolitaines. Cette série de podcasts a pour but de partager l'expérience singulière des marches sensibles du C2D avec le plus grand nombre. Ainsi, sa vocation est de rendre compte à la fois de la réalité sensible et sonore des lieux explorés, mais également de l'expérience collective vécue. N'hésitez pas à vous rendre sur le journal de bord agité du C2D pour en savoir plus.